FI.
Alors, on dit quoi?
Ina Kwamanku Diamara, je m'essaye au Hausa pour bien démarrer l'année. Bonjour à toutes et à tous les amis, ça y est, nous y sommes. 2021 a laissé place à 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une année pleine d'amour, de succès, de paix. Surtout la paix, mes amis. J'insiste sur ce volet car notre cher continent n'a pas été épargné l'an passé, notamment dans la zone sahélienne. Sahel qui dispose d'atouts majeurs puisqu'il regorge d'une population jeune et ingénieuse, d'une diversité de ses sociétés et d'une richesse de ses identités. Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad. Ce grand Sahel, qui je suis sûre nous écoute avec intérêt chaque samedi, est tout de même confronté à de nombreux défis. Attentats terroristes, intempéries, pauvreté, chômage, insécurité alimentaire et physique continuent de pousser des personnes à l'exil. Pourtant, nous en sommes convaincus, les Sahéliens et Sahéliennes ont le pouvoir d'entreprendre des actions transformatrices en vue de faire de leur région une zone prospère. Ce n'est pas pour rien que l'on donne la parole chaque samedi sur RFI à ces jeunes qui démontrent une formidable résilience et un dynamisme sans faille. Alors aujourd'hui, je vous propose une rétrospective des moments forts qui ont marqué l'année 2021, qui vient de se terminer avec ce petit best-of préparé avec amour sur les droits des femmes, la dépigmentation volontaire, la crise politique au Sahel ou encore le mariage. Sans plus tarder, je vous propose de l'écouter. C'est parti, Angata.
Alors, on dit quoi? Avec Djaran Djaï.
Un petit saut dans le temps avec cette émission consacrée à la vision du mariage chez les jeunes au Sahel, mais aussi les droits des femmes. Laetitia Bassolet, bonjour, merci d'être avec nous dans Alors, on dit quoi?
Bonjour,
Lucilla,
ça va bien,
je vous. Ah, ça va très bien, Laetitia. Vous êtes très engagée dans les droits des filles et vous êtes présidente de l'association burkinabé Young Women Initiative for Development à Ouagadougou, militante pour les droits des femmes et également blogueuse. Un beau parcours, Laetitia, bravo à vous.
Merci.
Et Laetitia, vous êtes au Burkina et vous aidez les femmes sur de nombreux volets de leurs droits. Pouvez-vous nous dire lesquels lorsqu'il s'agit notamment de mariage?
Au Burkina Faso, nous militons pour les droits de la femme et surtout nous aidons les jeunes filles dans les questions du mariage forcé et précoce. Et actuellement, nous avons une forte communauté de déplacés internes dus au terrorisme, chose qui ne facilite pas les conditions de vie des jeunes femmes et tout, et qui booste négativement les cas de mariage forcé. Du coup, c'est très difficile pour nous d'intervenir, en fait, souvent.
Et Laetitia, la question du mariage nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des chiffres sur la proportion, voire même l'âge du mariage des femmes au Burkina?
Oui, exactement. Selon l'Institut national de statistiques démographiques au Burkina Faso, plus de 63% des filles burkinabées sont mariées avant l'âge de 18 ans.
Ah oui, donc c'est très précoce finalement. De nombreux mariages de jeunes continuent en dépit de la volonté de la jeune fille.
Exactement, c'est toujours comme ça. Puisque souvent, la plupart du temps, ça vient des parents. Et je suis très heureuse parce que Naomi du Cameroun vient tout de suite de le poser.
Oui.
Il y a des parents pour éviter de voir les jeunes filles côtoyer beaucoup de mecs. En fait, elles préfèrent les donner en mariage avant l'âge.
En Afrique, effectivement, on a cette peur, entre guillemets, de voir sa fille tomber enceinte avant l'heure ou alors son enfant enfanter ailleurs et multiplier les partenaires. Donc, les parents se disent souvent, effectivement, qu'il faut marier vite l'enfant. Laetitia, autre point que j'aimerais aborder avec vous, ce sont ces nombreux messages que vous recevez à travers les réseaux sociaux. Est-ce que les jeunes filles sont nombreuses à vous parler de problèmes ou à vous demander des conseils autour du mariage?
Oui, ça arrive parce que très souvent nous sommes contactées sur les réseaux sociaux parce qu'elles ont besoin d'aide et du coup nous sommes obligés de contacter nos partenaires pour pouvoir intervenir.
Et racontez-nous un récent cas de mariage forcé que vous avez eu à traiter, par exemple, Laetitia.
Ok, le récent cas de mariage forcé date de 2 semaines. Et c'était une jeune fille dans la région du Sahel qui a été donnée en mariage à l'âge de 17 ans qui nous a contactés parce qu'elle en avait marre en fait. Quand on l'a donnée en mariage, elle était suivie de partout par 4 personnes qui la suivaient pour éviter qu'elle ne fuque. Et là, elle n'avait pas de moyen de s'en sortir. Du coup, elle a volé un téléphone, on ne sait pas à qui pour pouvoir nous contacter. On n'a pas pu la joindre toute la journée parce qu'elle se cachait. Le lendemain, elle nous avait fait signe avec un autre numéro pour nous expliquer où elle était logée parce qu'elle n'avait aucune idée du quartier dans lequel elle était, de la zone et tout. Elle était juste dans une maison, elle était sous surveillance. Et là, elle nous a expliqué, on a été étonnés de voir que le monsieur en question, qui était son mari, était un intellectuel qui travaillait pour le compte d'une mine d'or de la place. Et nous avons immédiatement saisi le procureur.
Quelle a été la réaction du procureur, Laetitia ?
Ce n'était pas sa première fois, en fait, qu'il nous a dit qu'il a affaire à ce genre de cas pour la plupart du temps, en fait. Donc, il a immédiatement réagi, il a appelé l'action sociale et les deux familles qui se sont réunies. Et pas fini, chose malheureuse, elle est repartie dans ce mariage forcé parce qu'elle avait peur du rejet de la famille.
Autre pression cette fois, c'est que les parents rejettent finalement leur enfant après avoir divorcé, c'est cela ?
Exactement, c'est ça. Et pour préserver l'honneur, la fille est obligée de supporter.
C'est très difficile comme situation. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles de cette jeune fille qui vous a contacté, Laetitia ?
Elle est mariée, elle dit qu'elle est enceinte. Elle est enceinte d'un bébé de 6 mois maintenant. Donc, sûrement, quand elle nous a contactés, elle était enceinte, mais elle ne savait même pas d'abord.
Difficile situation. Laetitia, j'aimerais vous garder en ligne et prendre une autre auditrice qui se trouve au Mali. Il s'agit de Maïmouna Dembélé. Nous allons un petit peu voir ce qui se passe du côté du Mali sur cette question, puisque Maïmouna est également une féministe et défenseur des droits de l'homme. Maïmouna Dembélé, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Maïmouna, vous avez écouté à l'instant le témoignage de Laetitia au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des points intéressants à soulever, mis en avant au Burkina Faso, notamment l'aide apportée à cette jeune fille dont on vient d'entendre parler, qui a été mariée de force et qui est coincée dans son mariage ?
En fait, c'est un peu les mêmes cas que nous avons au Mali. Nous recevons également des demandes d'aide de jeunes femmes qui se retrouvent dans la même situation que le Burkina Faso. Et je pense que ce qui est intéressant dans le témoignage de Laetitia, c'est que on n'a pas vraiment beaucoup de mécanismes de protection de ces jeunes femmes à partir du moment où le mariage est déjà célébré. On peut aller voir la justice, on peut aller voir les services sociaux, mais le plus souvent, il n'y a pas vraiment de dénouement parce que les personnes ne veulent pas vraiment perdre le contact avec leur famille parce qu'il y a toutes ces questions d'être réunie ou pas. Mais c'est aussi que même si on arrive à enlever ces personnes des mariages, quelle protection nous avons, où est-ce que nous allons les mettre et qu'est-ce que ces personnes deviennent si les familles n'acceptent pas.
Parce que cette aide, finalement, c'est à court terme, l'hébergement dans un foyer d'urgence ou une structure d'accueil, ça ne peut pas régler le problème en soi.
Ça ne peut pas régler le problème et surtout, ce n'est pas accessible partout. Dans les centres urbains, on peut avoir des foyers d'hébergement d'urgence et tout, mais en milieu rural, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, qui existe. Et donc, au Mali, on essaie vraiment de travailler sur la question de la prévention pour que les mariages ne soient pas célébrés. Mais également, les organisations de plus en plus travaillent à la médiation familiale pour convaincre le mari lui-même de laisser la femme partir et aussi convaincre la famille de recevoir l'enfant, de la reprendre.
Maïmouna, que nous dit la loi au Mali sur cette question du mariage ? À quel âge peut-on se marier ?
Le code de la personne et de la famille du Mali fixe l'âge du mariage à 18 ans pour le jeune homme et à 16 ans pour la jeune femme. Et il y a la possibilité dans certaines situations que la jeune femme soit donnée en mariage à 15 ans lorsque ses parents en font la demande et que les autorités compétentes l'autorisent.
Maïmouna, vous vivez dans un pays musulman. Est-ce que la pression des religieux pèse sur cette question de l'union ?
Disons que ce n'est pas vraiment une pression juste religieuse, mais c'est une pression sociale qui existe. Parce qu'au Mali, on a un modèle de réussite sociale, je pense, dans d'autres pays aussi. Et dans ce modèle de réussite sociale, il faut être marié. Il faut être marié, c'est comme une réalisation qu'il faut, par laquelle il faut obligatoirement passé. Et la pression religieuse vient, par exemple, sur la question de l'âge. On donne, par exemple, des enfants, des mineurs en mariage, parce qu'on a peur, comme vous le disiez tantôt, que ces personnes ne se retrouvent dans d'autres situations que les personnes considèrent comme étant des péchés. Et on a, par moments, une très mauvaise interprétation question de la religion qui pousse les gens à donner des enfants en mariage à l'âge de 12 ans, parfois à l'âge de 13 ans. Et aussi au Mali, la pression religieuse intervient là où cela influence beaucoup le cadre légal. Parce que l'âge de 16 ans... marier des filles à moins de 18 ans, c'est quelque chose qui est soutenu en fait par des personnes qui sont religieuses et qui sont très influents au Mali. Donc oui, il y a une pression religieuse qui est là,
Maïmouna,
mais
vous
surtout
avez...
par rapport à l'âge.
Par rapport à l'âge également. Maïmouna, vous avez travaillé sur un projet sur le mariage des enfants, notamment à Tombouctou, Mopti et Ségou au Mali. Qu'est-ce qui est ressorti du terrain? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont finalement surpris, vous qui êtes jeune et qui avez également analysé cette question du mariage du point de vue des jeunes?
Ben, moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est d'abord que les mariages sont célébrés pas parce que les gens le veulent finalement ou parce qu'on est à la recherche d'un bonheur, d'un équilibre ou d'un bien-être, mais plus parce que les filles surtout, et parfois les garçons sont considérés comme des projets de famille, des projets de société, et à un moment, il faut exécuter ces projets-là. Et donc, tu es donné un mariage, ça peut être un contrat entre deux familles, un contrat entre ta famille et une personne, sans qu'on ne demande finalement ton consentement. Et on doit juste être marié. Et être marié, ça veut dire être heureux. Ne plus poser de questions, juste être heureux parce qu'on a été donné en mariage. L'autre chose, c'est aussi que les communautés, en fait, veulent que les enfants partent en mariage parce que c'est un moyen, en fait, pour elles de se mettre à l'abri de certaines situations, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Parce qu'en envoyant des enfants au mariage, on n'a plus... cette pression de lui dire c'est quoi la sexualité, comment se protéger, comment par exemple...
C'est finalement se dédouaner de son rôle, c'est un petit peu ça.
C'est finalement se dédouaner de son rôle. Et les gens amènent aussi des questions de religion, mais aussi c'est parfois des questions de ressources, parce qu'une fille qu'on envoie en mariage et qui part avec un de ses petits frères ou une de ses petites sœurs, c'est des bouches de moins à nourrir dans la famille. Mais ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mariages célébrés par les officiers de culte, par exemple, les imams et tout, mais qui ne connaissent pas la loi, qui ne savent pas, qui ne doivent pas donner des gens en mariage sans leur consentement, qui ne connaissent pas l'âge du mariage. Alors, ce n'est pas parfait, 16 ans, pas du tout, hein, loin de là, mais ce sera déjà un début que ces religieux sachent qu'ils ne peuvent pas donner des personnes de moins de 16 ans en mariage, et ils disent ne pas le savoir. Ils disent
oui, donc il faut poursuivre la sensibilisation auprès des religieux et auprès des parents, et en particulier aussi des enfants, je l'imagine. Une dernière question pour vous, Maïmouna, vous êtes célibataire, est-ce que vous rêvez de vous marier, vous? Vous avez 30 ans.
J'ai 30 ans, je suis célibataire et je vais bien.
Alors, et vous allez bien.
Exactement.
Maïmouna, Laetitia, si vous m'écoutez, je vous salue et vous souhaite une bonne année 2022. Du Mali, nous prenons la direction du Sénégal. Ces dernières années, une vague contestataire mondiale opère dans plusieurs pays africains, dont le pays de la Teranga. Nous étions aux côtés de Sira Sylla, députée française de la République En Marche de Seine-Maritime, membre de la Commission des Affaires étrangères, vice-présidente du groupe d'études diplomatie économique avec l'Afrique et vice-présidente du groupe d'amitié France-Sénégal.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est à la jeunesse africaine de prendre son destin en main. Quand je repense aux dernières élections
présidentielles... Mais si les conditions ne sont pas réunies, Sénégal, c'est compliqué. Hein.
C'est la jeunesse. Il y avait un Sénégal Vote. C'était une plateforme participative sur Internet qui permettait les programmes. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire à la jeunesse. C'est prenez votre destin en main. C'est vous. Vous êtes 450 millions en 2050 qui devront insérer le marché du travail. Et la base, bien entendu, c'est l'éducation. Tout par-delà. Accompagner la jeunesse africaine. Je pense notamment au partenariat qu'on fait avec le Sénégal et j'espère qu'on pourra en parler.
On va parler du rôle de la France, c'est important. Voilà, c'est important et je vous ne quitterez pas ce plateau tant que vous ne m'aurez pas répondu à ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup parlé de la France effectivement durant cette crise, donc on va en parler. Juste avant, on va prendre un auditeur. On est en train de parler des jeunes, ils sont sur le terrain. On a un auditeur, Abbas, qui est sur place. Il est au Sénégal, il a 34 ans. Abbas, bonjour.
Bonjour.
Le président sénégalais nous a dit « Je vous ai entendu ». Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ?
Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour aussi à M. Abdoumbou, Pape Djibril Fall et Sierra Silla. C'est un honneur de partager le plateau avec vous. Et donc, le président Macky Sall, son discours reflète ce que la jeunesse sénégalaise attendait. Raison pour laquelle, quand il a prononcé ces mots, il y a eu une accalmie dès le lendemain. Donc, la toile de fond, c'est en fait l'emploi des jeunes et aussi le sous-développement qui continue à être vécu dans le pays, malgré qu'on a élu Macky Sall et qu'on a cru que ça allait quand même régler la situation.
Abbas, quel doit être le rôle des jeunes dans la construction de leur avenir? Qu'est-ce qu'on fait là finalement?
Actuellement, ce qu'on trouve, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu quand même un espoir sur un homme qu'on élit en tant que président, en fait, les attentes auxquelles on aspire ne sont pas satisfaites. Et à chaque fois qu'ils viennent, que ce soit d'Ablaye Wade jusqu'à Macky Sall, c'est surtout un problème de sous-développement, de jeunesse et d'emploi. Et à chaque fois qu'ils promettent aussi et qu'ils donnent des programmes, c'est justement pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi et donner des conditions de vie meilleures, à rappeler que les jeunes, ils ont entre leurs mains, ils ont le monde entre leurs mains. Les médias sont là, les réseaux sociaux sont là, et ils voient que les choses marchent dans d'autres pays, et que ces autres pays sont les références, parce qu'à chaque fois qu'on cite en matière de démocratie ou de développement, on cite ces pays. Ils aspirent à vivre ce que les autres pays vivent. Et à chaque fois, il y a un blocage par rapport à ça, parce que souvent, ils retournent sur des questions qu'on devrait dépasser, qui se situent entre un leader politique, des problèmes de justice, pour s'attaquer aux problèmes réels qui sont les développements. Maintenant, ce que la jeunesse a compris, c'est qu'il faut que la jeunesse prenne en main son destin.
Oui, comme ce que vient de dire, effectivement, Sarah, c'est important.
Oui, parce que c'est elle qui est dans le sens de l'histoire, avec 70% de moins de 30 ans.
Et une jeunesse aussi qui est africaine et ouest-africaine, notamment, parce qu'on voit des manifestations également au Mali, au Niger, en Guinée, au Sénégal. Et on a justement une Nigérienne qui vit au Sénégal. Elle est en ligne avec nous. Abbas, restez en ligne avec nous. On va prendre Soraya, elle est nigérienne au Sénégal et elle est étudiante aussi à Sciences Po Paris. Bonjour Soraya.
Bonjour Diarra, bonjour.
Soraya, vous, est-ce que vous voyez un parallèle entre la jeunesse sénégalaise qui se révolte et pareillement au Niger, quand on voit des jeunes descendre dans la rue? Comment vous analysez ces situations de révolte populaire?
Merci Diarra pour la question. Alors totalement, en fait, j'ai observé le mouvement Free Sénégal, le mouvement Free Niger pour l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment vu que les jeunes se sont organisés sur Twitter, sur Facebook, sur un nouveau réseau comme Clubhouse. Il y a eu en fait tout un mouvement derrière. Les jeunes ont organisé même des listes de mails à envoyer aux ambassades, aux organisations internationales, etc. Et vraiment, ça a été fait des deux côtés. Parce qu'au Niger, il faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pendant la crise post-électorale, il y a une coupure Internet qui a duré 10 jours, il y a eu des arrestations, etc. Et donc à ce moment-là, la jeunesse qui était au Niger n'a pas eu la capacité de se mobiliser comme ont pu le faire ceux du Sénégal. Et donc c'est Internet qui a été le relais principal de ces jeunes-là, de cette diaspora.
Soraya, vous avez mentionné Clubhouse. Je suis obligée d'y revenir parce que ce réseau social, un nouveau réseau social, a eu une résonance très très importante au niveau de ces révoltes, notamment au Sénégal et au Niger. Clubhouse, c'est voilà, finalement un nouveau réseau social qui repose uniquement par la voix. Il faut être coopté pour y rentrer, c'est un peu élitiste, il faut le dire. Et souvent, après, il y a des discussions qui se prolongent via Twitter. Et le hashtag Sénégal a d'ailleurs été discuté sur cette plateforme-là. Vous utilisiez, vous aussi, les réseaux sociaux, Soraya, comme Clubhouse et Twitter, avant toutes ces mouvances dans la rue?
Alors, je n'utilisais pas ces réseaux sociaux avant qu'il y ait ces crises, mais j'ai commencé à les utiliser à ce moment-là parce que j'ai remarqué que c'était un bon moyen de pouvoir s'exprimer. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, on vit dans des sociétés qui sont plutôt conservatrices, où il y a ce principe-là du respect des aînés qui fait qu'on est toujours obligé de filtrer nos paroles, où la contradiction est perçue comme un manque de respect. Et en fait, sur des réseaux sociaux comme Twitter ou sur Clubhouse, ces dynamiques, elles n'existent plus. On peut vraiment s'exprimer, on peut vraiment dire ce qu'on pense. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette mobilisation, que ce soit sur Twitter, sur Clubhouse, sur Facebook, c'est vraiment transformé en des actions concrètes sur le terrain. Donc, par ce biais-là, les jeunes ont pu organiser, par exemple, des cagnottes pour les familles.
Oui, il y a 10 millions de francs CFA qui ont été récoltés pour les familles des victimes sur Clubhouse, justement.
Exactement. Organiser même des manifestations. Et on a vu aussi l'organisation du don de sang, donc après les manifestations pour venir en aide.
Absolument. Vous avez manifesté, vous, Soraya ? Vous êtes descendue dans les rues de Dakar ?
Alors, j'ai participé à un festival pacifique qui était organisé au niveau de Sacré-Cœur. Donc, ça aussi, ça avait été organisé sur Clubhouse. Malheureusement, ça n'a pas pu vraiment durer parce que ça a été rapidement dispersé par la police, mais ça a été organisé de manière extrêmement pacifique.
Et est-ce que si vous étiez, est-ce que vous seriez au Niger, vous auriez également pris part à ces manifestations des jeunes Nigériens ?
Alors, j'aurais pris part à ces manifestations si ça avait été organisé de manière pacifique, mais on a un contexte qui est très différent au Niger, où voilà, quand tu sors dans la rue, tu prends quand même le risque de te faire arrêter, et c'est ce qui s'est passé du coup dans la crise post-électorale. Je ne dirais pas que c'est un espace démocratique aussi ouvert qu'au Sénégal. Donc vraiment, on est obligé de faire plutôt attention, même dans notre expression sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui se sont fait arrêter pour des statuts WhatsApp, pour des posts sur Facebook, donc on est obligé d'être on est beaucoup plus restreint en fait au Niger, malheureusement.
Malheureusement. En tout cas, on continue de se mobiliser en discutant de tout ça. C'est un débat, nous sommes en démocratie et il va falloir se faire entendre. Merci infiniment Soraya et merci infiniment Abbas que je n'ai pas remercié juste avant. Alors, des rappeurs se sont également mobilisés aux côtés des manifestants au Sénégal avec la composition de chansons et de clips engagés. Awadi, vous le connaissez, en fait partie. Il sera avec nous dans quelques instants, mais d'abord on écoute le son de son groupe PBS Baye El Mousseb, Free Sénégal.
Alors on dit quoi ?
Allô, allô, monsieur le président. C'est pas un ennemi qui parle mal ou me partisan. C'est un simple citoyen qui parle librement. Faut que New Orleans de dégloume sereinement. Rien ne va plus dans le pays, j'ai vu des scènes de guerre. Tu dois parler devant le peuple et apaiser les nerfs. Ce gars est inopi, on n'a pas besoin de va-t-en-guerre. Le pouvoir est dans la rue, la preuve, on l'a vu hier. Tu dois parler, tu dois agir, tu dois calmer les gars. Ngobaye Sonko, Baye Guimérius en tous les cas. Ngobaye Hélène, tu veux la paix, tu fais le premier pas. Koloko, rôle de l'énard, monsieur le président. Baye El Mousseb, l'opinion n'est pas d'accord. Baye El Mousseb, on a compté déjà trop de morts. Baye El Mousseb, complot, tu vois d'Adem et Bob. Baye El Mousseb, Baye El Mousseb, Baye El Mousseb. Qu'on n'est pouvoir, n'est opposant. Baye El Mousseb, liberté de presse et mouvement. Baye El Mousseb, Askan Bangi Dekindol. Baye El Mousseb, Prezi. Baye El Mousseb, Cholul. Baye El Mousseb, Bala Laka Kendo Danka Khal. Baye El Mousseb, Lolo Gengendi Nyupun Khatal. Baye El Mousseb, démocratie et justice de Kotal. Baye El Mousseb, Prezi. Baye El Mousseb, Cholul. Allo notre bourgade, bourgade, yo, j'ai le fond bi. Kana Yego de Gomba. Fale wole kawsi town bi roosted mertis anda khol bu nakare hol li ñu yakale li de doy na yakare lu teug tass lu taxa fay lu dund de dañu yaga masala me es bi dañu xundu de buntu be lañ lay tijil ni xolatal bala yeex bol bi de jart ñed ndax ndawal li dafa jeex bur de wul bur sayi wul bur sax mo fi amul xana da nga fatte fi raw na wala da nga xamul nek suñu dekk ngeen japp ñu ay ndoxandem ane suñu ala ñu ni ñu mi ngi si waxandem li comme guerre bëggu ñu fitna wante ragaluñu comme guerre yo ya ko yexal ñun de yagaluñu ah allo wallo tontu ma tontu ñu yo xana dego
Awadi, musicien et rappeur sénégalais, entre autres, il a pas mal de fonctions. Awadi, bonjour.
Bonjour.
Awadi, on vient d'écouter Baye El Mousseb en français pour traduire. C'est un peu laisse refroidir. Est-ce que je traduis bien là ?
Laisse tomber,
voilà, lâche l'affaire. On lâche l'affaire.
Et vous, lâche l'affaire.
Lâche l'affaire. Vous vous adressez à qui ? Qui doit lâcher l'affaire ?
On va s'adresser au président de la République. Et globalement aux autorités pour dire qu'il fallait lâcher l'affaire parce que cette affaire a été elle sent mauvais, elle a créé trop de violence, il y avait trop d'injustice, un sentiment généralisé d'injustice, donc il fallait qu'il lâche l'affaire pour que sereinement on puisse régler cette affaire. Si c'est une affaire de justice, qu'on la règle en justice. Si c'est une affaire, quel que soit le... Voilà, il fallait lâcher l'affaire pour apaiser les esprits.
Et vous dites que l'opinion n'est pas d'accord non plus, dites-nous en plus, elle n'est pas d'accord sur quoi exactement ? Est-ce que d'ailleurs le président a répondu à votre appel ? Parce qu'on vous voit appeler dans votre clip là.
Non, on a l'impression qu'il répond le lendemain parce que le lendemain... Enfin, il s'est adressé au peuple pour, avec un bon message d'apaisement, il faut le dire. Donc ça, c'était bien. Parce que pourquoi on l'avait fait ? Parce qu'on commençait à avoir un mort, deux morts, trois morts, quatre morts, et on n'avait pas le président de la République qui s'adressait à son peuple.
Ce silence, donc, il faut le dire, il a pesé. Tout le monde attendait la parole du président de la République.
Oui, parce que quand dans une affaire, même s'ils disent que c'est une affaire privée, elle est arrivée sur la place publique, elle est devenue politisée parce Absolument. Que tous les politiciens sont emparés et ça secoue l'État, il y a un mort d'homme, il fallait que le président parle. Bon, il l'a fait tard, mais il l'a fait, il faut le lui reconnaître. Mm-hmm. Et puis il a apaisé, Sonko aussi derrière a apaisé. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça la démocratie. Il faut qu'il y ait le pouvoir, mais il faut absolument qu'il y ait des opposants. Et ils doivent exister, sinon on ne parle plus de démocratie.
Awadi, merci encore de nous rappeler quelques points fondamentaux d'une démocratie. La parole doit rester libre. Et cette parole est saisie par nos courageuses auditrices pour dénoncer certaines pratiques. À l'instar d'Aissata Dibambado, depuis août 2018, cette jeune Mauritanienne a publiquement arrêté la dépigmentation volontaire. Blogueuse beauté, elle l'a avoué en postant une vidéo sur sa chaîne YouTube Makeup Perfect Bambado. Elle témoigne au micro de RFI.
J'ai décidé d'en parler parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube et souvent j'avais des messages qui me rappelaient que je me blanchissais la peau, il faudra que j'arrête. Et un jour j'en ai eu marre, j'ai fait une vidéo pour en parler, pour être libre et expliquer que c'est mon choix, c'est un choix personnel. Et de là, quelques temps après, j'ai décidé d'arrêter et d'en parler. Et aussi encourager en fait les femmes à arrêter et accepter leur couleur de peau.
Donc de la sensibilisation, c'est ce que vous faites clairement aujourd'hui. Voilà. Il y avait beaucoup d'émotions, Aissata, dans cette vidéo. C'est dur d'en parler encore aujourd'hui pour vous ?
Aujourd'hui, ça va. C'était au début. Au début, c'était vraiment difficile. D'ailleurs, j'aurais jamais pensé un jour en parler parce que quand j'avais des commentaires... je me pressais à les effacer j'avais peur que les gens...
Comme une honte, finalement.
Oui, voilà. Mm. Je le faisais, mais en même temps, je n'assumais pas. J'avais honte qu'on découvre que je me blanchissais.
Et pourtant, il y avait des signes apparents qu'on voyait dans vos vidéos, notamment les phalanges qu'on voyait un peu plus foncées que les autres, la différence de teinte entre vos mains, et votre visage.
Oui, justement, c'est ça. Et c'est ça qui nous trahissent, en fait. Et c'est impossible de le cacher et ça se voit, ça fait pas naturel.
C'est pas naturel, ouais. Vous comprenez, vous, Aissata, les gens qui en font mais qui ne veulent pas du tout en parler, qui se cachent cette honte derrière cette pratique ?
Bien sûr, je comprends, j'étais à leur place et c'est toujours un sujet tabou et c'est pas facile en fait d'en parler et surtout on est beaucoup jugé. On nous juge par rapport à ça, donc personne ne va prendre la décision d'en parler publiquement pour ensuite être insulté, recevoir des commentaires.
Des brimades, bien sûr. Vous avez arrêté depuis 2018. Aujourd'hui, c'est totalement terminé. Mais il y a eu des phases où vous arrêtiez puis vous repreniez la dépigmentation. Vous comparez même cette pratique à une drogue. C'était une obsession pour vous, Aissata ?
Une fois qu'on est là-dedans, ça devient un cercle vicieux, en fait. Mm-hmm. On arrête, on reprend. Quand on arrête, on noircit rapidement et du coup, c'est pas beau à voir et on se trouve laid. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois et à chaque fois, je n'aimais pas ce que je voyais et du coup, je reprenais. Et il y a aussi les réflexions des gens qui te posent des questions. Ça va, t'es malade, ou t'as plus d'argent.
Des commentaires difficiles à accepter, c'est pas facile. Hein. Ouais. Aujourd'hui, Aissata, comment vous réagissez quand vous regardez vos photos d'il y a 4 ans ?
Je me demande carrément ce qui m'a pris de faire ça. Parce que aujourd'hui, je me trouve beaucoup plus belle qu'avant, en fait. Mm-hmm. Quand je me dis qu'est-ce qui m'a pris pendant des années, pendant 20 ans, mm-hmm. j'ai traumatisé ma peau et pour rien en fait.
Mais quel a été le déclic finalement lors de cet été 2018 où vous avez radicalement arrêté ?
Le déclic, c'était une plaque en fait que j'avais eue sur ma poitrine. Une grosse plaque qui me grattait et il y avait beaucoup de liquide qui sortait. Et tout de suite, je me suis dit, là, je suis foutue, j'ai le cancer. Mm-hmm. Je me suis dit, 20 ans, c'est pas rien.
Oui, parce que vous connaissiez les séquelles de cette pratique.
Oui, et le souci, c'est que je savais qu'il y avait des risques et que je mettais ma santé en jeu, mais je refusais de voir tout ça et j'allais jamais sur Internet pour voir les dégâts et tout. Et à partir de là, j'étais sur Internet voir les symptômes.
Absolument. De cancer de... Une grosse frayeur.
Oui, voilà. Et c'est ça. Et une fois que j'ai su que c'était pas un cancer, je me suis dit là, peut-être que c'est un signe et que c'est le moment que je devrais arrêter parce que si c'est pas arrivé cette fois-ci, ça pourrait arriver. Avec le temps.
Aïssata, si vous aviez 15 ans, à nouveau 15 ans, parce que vous avez débuté à 15 ans, est-ce que vous auriez dépigmenté votre peau ?
Non, j'aurais écouté ma mère.
Alors, j'aimerais justement avoir la réaction tout de suite d'Adama et Abdag. On va commencer par vous. Adama, vous avez entendu le témoignage avec nous d'Aïssata, qui a dépigmenté pendant très longtemps sa peau et qui, aujourd'hui, a totalement arrêté. Quelle est votre réaction lorsque vous écoutez ce témoignage ?
C'est déjà vraiment super courageux, bravo et félicitations, parce qu'il faut beaucoup de courage dans les sociétés où on vit, déjà d'en parler, de se faire écouter comme ça, et notamment aussi beaucoup de courage d'arrêter, parce que effectivement, moi qui vis entre l'Afrique et beaucoup plus en Afrique en ce moment, je vois effectivement quand les jeunes femmes essaient d'arrêter, les commentaires, mais vraiment, on les encourage pas. Ah oui, mais t'es malade, ça, j'ai déjà vu ça. Donc voilà, bravo et félicitations. On félicite pas assez les femmes qui arrêtent parce que c'est extrêmement dur et notre société est
très critique. Et très, très critique. C'est important de le rappeler, Adama.
Les femmes qui le font et certes, et celles aussi qui arrêtent parce que c'est incroyable quand même. Finalement, qu'est-ce qu'on veut d'elles? Et moi, je la connais pas, mais vraiment, bravo, madame.
Non, il faut la féliciter. Vous avez bien raison.
C'est ça qu'on devrait encourager plus au lieu de leur. De les faire se sentir aussi mal que quand elles le faisaient finalement. Mais moi, je voulais juste rajouter que j'entends sa peine, j'entends sa douleur, et c'est malheureusement lié. Et effectivement, je suis d'accord sur l'intro, j'ai entendu. C'est pas parce qu'elle veut être blanche, ou c'est pas parce qu'elle n'aime pas être africaine, ou sa peau noire. C'est vraiment un phénomène esthétique très bizarre. Et surtout, moi, je pense que l'éducation à faire serait vraiment, vraiment chez nos hommes. Les Africains. Mm-hmm. Que toutes ces femmes qui font ça, elles ne sont pas avec, comme on dit dans le jargon, avec des Blancs. Elles sont avec des Africains, des Noirs, à qui elles veulent plaire.
Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, Adama, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de cette question. Ce n'est pas forcément pour plaire aux autres, ou plaire aux Blancs, ou plaire aux Noirs. C'est vraiment parce que finalement, ça plaît d'être avec une claire, et c'est aussi un complexe pour les hommes.
Mais complètement, et c'est un complexe tellement profond, je ne sais pas, ça doit venir peut-être de l'esclavage, de la colonisation. Le fait est que nos hommes voient les femmes claires plus jolies que les femmes noires.
On a justement un homme, Adama, tiens, on va le laisser réagir. Abdag, vous avez entendu un petit peu notre conversation depuis le début de l'émission et le témoignage, bien entendu, de notre courageuse Aïssata. En quelques mots, que souhaitez-vous ajouter ?
Donc déjà, en fait, je rejoins Adama dans la démarche de féliciter Aïssata parce qu'effectivement, ça ne devait pas être évident de sa part, quelque part, de pouvoir prendre le courage de se dire qu'à un moment, on arrête. En sachant que le phénomène de dépigmentation volontaire, une femme qui décide en fait de se dépigmenter, là, j'entends en fait Adama qui lance un pic sur les hommes et je suis parfaitement d'accord avec elle là-dessus. Mm-hmm. C'est multifactoriel, c'est-à-dire quelque part, une femme qui décide en réalité en fait de se dépigmenter, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer. Il y a l'entourage, bien évidemment, les amis, la famille. Mm-hmm. Mais il peut y avoir aussi quelque part un conjoint à côté qui pousse en fait cette femme de par ses paroles, de par ses actes en fait, ou bien de par son regard en fait, à lui montrer que ben tiens, une femme blanche en fait, ou bien une femme métisse en fait, est beaucoup plus jolie qu'une femme noire, ce qui est absolument fausse. Donc du coup, ouais, nous, ce que j'aimerais rajouter, c'est que c'est sûr que c'est quelque chose qui est multifactoriel et c'est important d'insister là-dessus, Chiara. C'est qu'en fait, il ne faut jamais analyser la dépigmentation volontaire que sur l'ordre sociologique. Mm-hmm. Très souvent, on a tendance à oublier que quelque part, parmi les molécules qu'on utilise pour se dépigmenter la peau, il y a des molécules en fait qui jouent sur la dépendance, comme la nicotine.
Donc c'est aussi une addiction dont parlait Aïssata tout à l'heure.
C'est aussi une addiction. C'est un fumeur, il sait très bien quelque part, il faut qu'il arrête de fumer. Pourtant, il n'y arrive pas.
Alors on pourrait comparer cette pratique à quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui boit et qui est dépendant totalement ?
Ah, mais c'est sûr que quelque part, aujourd'hui, dans la littérature médicale, on a démontré quelque part, il y a bien la corticodépendance qui est réelle. Mm-hmm. Ça veut dire quelque part, une femme qui se dépigmente à travers en fait, des produits à base de cortisone, elle développe une réelle dépendance quelque part, mm-hmm. un phénomène de crunch en fait, qui est réel et qui a été prouvé scientifiquement. Donc du coup, cette femme-là, quand bien même elle sait que c'est dangereux pour elle, mm-hmm. elle ne pourra pas se lever un jour et dire « c'est bon, j'arrête ». C'est impossible, il faut vraiment de l'accompagnement et c'est pour ça qu'Aïssata, je ne sais pas quel produit elle a utilisé, mm-hmm. mais si elle est arrivée toute seule à pouvoir arrêter de se dépigmenter, Il lui a fallu beaucoup de
gros travail
pour le faire.
Aïssata, peut-être en quelques mots, nous dire d'ailleurs les produits que vous utilisiez.
Au début, c'était le produit des tubes. C'est ces produits qui sont faits pour plus traiter. C'est des médicaments, en fait. Mm-hmm. Et bizarrement, c'est des produits qui sont accessibles partout, au marché.
C'était ici en France ou en Mauritanie?
Non, au pays.
En Mauritanie, d'accord. Et ouais. Vous savez s'il y avait de l'hydroquinone ou des corticoïdes?
Oui,
d'accord.
Oui, bien sûr.
D'accord. Juste, j'aimerais qu'on écoute ensemble un sonore et on va réagir derrière cela.
Bonjour, je m'appelle Marie et je suis sénégalaise. Je me dépigmente parce que... grosso modo, ça me donne de l'assurance. Je suis belle à mon niveau, c'est ça que je me dis. Et souvent, les gens me disent, ouais, t'es toute belle quand tu es claire, tout ça. Et par contre, si je laisse juste un mois de me dépigmenter, alors là, c'est une catastrophe. T'es noire, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème, t'as un souci? Bon, c'est pour cela. Ça me donne de l'assurance. Et j'aimerais un jour arrêter et prendre des produits qui me donneront de l'assurance que ça va, je vais me sentir bien.
Adama, une réaction après avoir entendu ce sonore de Marie qui se sent belle parce qu'elle est claire, qui se sent bien parce que son teint n'est pas noir.
Bah, c'est triste, mais c'est comme le disait le monsieur.
Abdag. Mm-hmm.
Oui, y a beaucoup de phénomènes déclencheurs. Et moi, vu l'étude qu'on a fait, nous, en quelques années ici, avec notamment nous, les mannequins, c'est vraiment fortement lié à la perception de la beauté en Afrique par les Africains. On en revient toujours au problème d'éduquer nos jeunes hommes et d'éduquer nos hommes plutôt que de demander aux femmes d'arrêter de se dépigmenter parce que tant qu'elles ne se verront pas belles par le regard de leurs hommes, on a un problème.
Mais ce n'est pas pour défendre forcément, je vais peut-être me faire l'avocate du diable, Adama, mais on parle de dépigmentation, mais c'est un débat en fait entre nous aussi, entre Noirs, Africains, où il y a du racisme finalement au sein même de notre communauté. Moi j'ai déjà entendu, bah oui, toi tu es noir comme du charbon, on ne te voit pas, tu es noir, tu es plus noir que bleu, au Sénégal on dit ça souvent. Quand on a un enfant, tout de suite, on va regarder la couleur de ses oreilles pour voir si effectivement il ne va pas trop foncer. Enfin, et ça, ce sont des discussions au-delà même de parler avec les autres couleurs de peau. Mais nous, entre noirs, nous-mêmes, donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça pousse de nombreuses femmes, comme Marie et comme d'autres qui vont témoigner aujourd'hui, eh bien, de se blanchir la peau.
Ah oui, mais c'est exactement ce que je dis, c'est qu'on a tendance à dire « Ah ben oui, c'est pour être blanche ou pour plaire aux blancs ». Non, ce problème est un problème de santé publique, effectivement, mais c'est un problème de perception de la beauté de nous, les Noirs. C'est un réel problème entre nous, les Noirs, comment on se perçoit et pourquoi nous, les Noirs, on croit qu'une fille avec un teint plus clair est plus jolie. Pourquoi nos hommes d'État, pourquoi les gens, en tout cas, qui représentent l'élite ici, sont toujours avec des métisses ou avec des blancs, et qui fait que la réussite, c'est être avec une femme claire. Bien quand sûr. Tu as de l'argent ici en Afrique, tu es avec une femme claire et métisse si possible et sinon une femme claire. Et du coup, toutes ces jeunes femmes veulent ressembler à ces femmes-là.
À ce qu'elles voient. Donc il y a aussi un problème finalement de représentation de la personne noire en fait qui réussit. Il faudrait qu'on soit plus visible finalement pour ancrer dans nos sociétés de personnes qui peuvent aussi réussir.
Ah oui, c'est moi, je pense que pour finir, c'est le gros problème, c'est la représentation de la beauté et la perception de la beauté par les Africains eux-mêmes. Donc, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. Et je pense que réellement, pour changer, parce qu'on parle de ce phénomène et on parle des problèmes, mais nous, on a fait une grosse étude là-dessus qui a duré quelques années. Mm-hmm. Et réellement, ce qui en est sorti, c'est qu'il faut qu'on éduque les hommes. Il faut qu'on éduque nos jeunes hommes, il faut qu'on éduque, c'est comme à l'école, pour que leur perception des femmes change. Et que ces femmes-là, du coup, en grandissant, elles se sentent belles, noires, comme charbon.
Et
comme,
peut-être aussi le rôle des parents, alors Adama, vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est un tout.
C'est les parents, normalement, et l'éducation nationale, l'école qui éduque les jeunes gens, pour qu'en grandissant, qu'on te dise que tu es belle, parce que, même si tu es noire, en fait, c'est même horrible d'en arriver là. Mais c'est ça, donc il faut qu'on éduque les gens en bas âge pour que cela puisse être une élite qui aime des femmes
noires, tout simplement. Noir et foncé. Aïssata, une petite question. Marie a dit quelque chose d'intéressant. Ça donne de l'assurance. Est-ce que vous aussi, vous sentiez cette assurance, cette confiance en vous lorsque vous étiez plus claire?
Ah oui, ça c'est Déjà, quand j'ai commencé pour la première fois, ça a tout changé en fait. Avant, on ne me remarquait pas. Et dès que j'ai commencé à claircir, tout le monde me faisait des compliments en fait. J'étais visible.
Et aujourd'hui, vous l'êtes moins, c'est ça ?
Non, mais après, je dirais qu'il y a aussi la confiance en soi. Parce que là, aujourd'hui, je suis une femme et j'ai plus confiance en moi et je me sens belle. Alors que quand j'ai commencé, j'avais 15 ans, j'avais pas forcément confiance et je me fiais à ce que disaient les gens. Et pour vous dire, quand j'ai commencé, tout est parti quand ma cousine est arrivée en vacances chez nous. Elle était toute blanche, elle se blanchissait la peau. Et tout le quartier en parlait du fait qu'elle avait un beau teint, qu'elle était belle. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Mm. À partir de là que j'ai commencé. Je me suis dit, tout le monde dit qu'elle est belle, donc moi aussi je dois le faire pour être belle comme elle.
Aïssata, ainsi que toutes les femmes qui nous écoutent, bravo et merci de répandre des messages aussi importants autour de l'acceptation de soi. On continue notre best-of avec ce message fort de Mustapha Thiam, auteur de l'ouvrage « L'adversité, mon allié ». Mustapha était venu participer à l'émission consacrée aux défis quotidiens des jeunes Africains.
Toujours les mêmes problèmes qui se répètent au quotidien, depuis l'Afrique et l'Afrique. C'est-à-dire problème de stabilité, problème de guerre, de terrorisme et j'en passe. Et là, je pense qu'il est grand temps d'agir, il est grand temps de répondre à ces urgences. Et moi, j'interpelle déjà les Nations Unies, donc tous ces organismes qui sont là pour défendre l'éducation, pour défendre les droits de l'homme. Je pense qu'il est grand temps quand même d'agir et de répondre à ces gens de problématiques. Et je pense qu'aussi, cette jeunesse qui est en train de vivre ces genres de conditions aussi difficiles, Diarra, ça va beaucoup, beaucoup impacter sur leur avenir. Et bien sûr, ça va stagner par rapport à leur espoir pour faire des choses. Mm-hmm. Et c'est ça qui est dommage en Afrique. Aujourd'hui, on est en 21e siècle et tous les jours et tout le temps, c'est toujours les mêmes conditions qui reviennent. Voilà, on n'arrive pas à étudier. Il y a la guerre, il y a des gens qui sont morts et c'est vraiment déplorable. Et il est grand temps que les gens réagissent et bien sûr répondent aux priorités.
Les priorités au Niger, par exemple, c'est de lutter notamment contre ces attaques terroristes qui ont lieu. On a justement un auditeur, Abdoulaye, qui va nous parler de sa vie dans ce contexte difficile d'insécurité. Il est journaliste à la radio communautaire Soudji, c'est à Ayoro, à l'ouest du Niger. D'accord. C'est près de Tillabéri, précisément au nord de la région. C'est très proche du Mali, où là également il y a des attaques terroristes. C'est un journaliste sensible au conflit. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour.
Abdoulaye, merci de participer à cette émission aujourd'hui. Dites-nous, quelle est la particularité de cette radio, justement, qui est au cœur de l'insécurité au Niger ?
La radio, sa particularité, c'est que c'est une radio communautaire d'éducation, de sensibilisation, de formation donc, et de sensibilisation. Donc, qui touche un peu toutes les couches dans le milieu dans lequel elle est implantée.
Abdoulaye, quel impact ont les groupes terroristes sur votre travail, si bien sûr impact il y a ?
L'impact, c'est que, il y a de quoi avoir peur, on a des craintes, on mesure ce que nous devrons dire à travers, en tout cas, les ondes et les émissions réalisées, parce qu'il y a des mots, il y a des noms, qui sont tabous chez
les... Comme quoi, par exemple, Abdoulaye, qu'est-ce que vous ne devez pas dire ?
On ne doit pas les traiter de bandits, on ne doit pas les traiter de terroristes, comme on leur dit. Mm-hmm. Donc, dans nos langages, il y a la manière de leur dire, tout ça là, c'est plus vexant. Donc, nous cherchons toujours, et il y a même eu des menaces de certains responsables, des maires.
Vous avez déjà été menacé personnellement, Abdoulaye ?
Non, pas nous en tant que tels, mais il y a des radios qui ont suivi des représailles. Mais notre radio, non, parce que nous essayons de marcher un peu sur la ligne droite et nous respectons l'éthique et la déontologie. Donc, vous voyez, nous sommes là pour eux-mêmes, nous essayons de les sensibiliser pour, mm-hmm. pour les raisonner, pour qu'ils reviennent à la réalité et essayer, même si y a des choses qu'ils veulent revendiquer, parce que c'est des groupes qui ne revendiquent pas, qui ne disent pas leur nom, qui commettent des attaques.
Est-ce que vous parlez, par exemple, de ces attaques, Abdoulaye, dans votre radio ? Parce qu'il y a plusieurs groupes terroristes, plusieurs types d'attaques, des pillages, des tueries. Est-ce que vous en parlez dans la radio ? Et peut-être même racontez-nous une des dernières attaques qui a eu lieu sur place.
Oui, on parle des attaques, mais d'une manière plus paisible, d'une manière en tout cas moins vexante, puisque eux aussi, ils veulent aussi que les radios en parlent d'eux.
La radio mais parler d'eux en bien,
aussi.
Entre guillemets.
Oui, nous parlons de bon. On peut dire que ce qu'ils font, eux aussi, ils participent.
Abdoulaye, on ne vous entend plus très bien. En tout cas, merci infiniment pour ce témoignage, Abdoulaye. Bon courage surtout à vous et prenez soin de vous, c'est important.
Merci.
Alors, on dit quoi ?
On se quitte dans la bonne humeur avec ce son du talentueux Nigérian Olakira. J'espère que vous avez passé un agréable moment ce samedi. Encore une fois, bonne et heureuse année. Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien grandissant. Vous nourrissez le contenu de cette émission qui vous est entièrement dédiée. Alors, merci et bonne année. Merci pour votre soutien. Merci à toute l'équipe de... Alors, on dit quoi ? Mevarli, Guillaume, Daba, Mariam. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Oumnon, Ragondol. À bientôt. Ready, last give it to Yankee for this pandemic. Girl, I get it all on me. I wanna spend it. I fit to be your garment. Me, I wanna wear it for real. You know I got it. Take the car keys. For the Maserati, you get naughty. For the Lamborghini, you won't give. For the Bentley, you go bend it. Oh baby, choose what you wanna cruise in. I buy you shoes, probably Jimmy Choo. Yeah. And I like the way I get it naughty. So make it up in my Maserati. Baby, up in my Maserati, I say up in my Maserati, up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Say me, I love the way you bend body. Up in my Maserati, baby, up in my Maserati, and I just wanna see you cry. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm on your back, all of you, not all of you. Somebody. Somebody needs somebody. Somebody, 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 somebody. I want your breath. I love you. I love you. Let me give you butterfly. Say now you didn't mesmerize me. I'm on the strong to civilize. Anywhere you go, I go follow. When I up the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't tell me got ginger. Shawty, I know you like to party. I'ma throw jump on me. Show my body shape. Yeah, yeah. Baby, come on, God. Innocent, nobody. Yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Make love in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah. Say me, I love the way you bend body. Up in my Maserati. Make love in my Maserati. And I just wanna see you.